Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Après une chute spectaculaire du PIB dans les pays européens touchés par la Covid-19, le déconfinement progressif a fait remonter l'activité économique au mois de juin. Toutefois, la reprise de l'économie est à envisager encore au conditionnel au vu des incertitudes sur la possibilité ou non d'un retour du virus. Doit-on en conclure que la crise sera moins importante que prévu? Peut-on parler de reprise économique? Bonjour Éric Kayer.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors, est-ce que ça va mieux ou bien est-ce moins pire que prévu?
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que ça va mieux. Mais alors, attention, quand on dit que ça va mieux, c'est que ça va pas bien non plus. C'est-à-dire que ça va mieux que pendant les périodes de confinement. Donc, le déconfinement, on voit son impact sur l'activité, mais on est toujours en dessous de l'activité normale. Et donc, quand on est en dessous de l'activité normale, eh ben on détruit quelque part de la richesse. Donc ça veut dire qu'il y a un coût économique qui doit être porté soit par les finances publiques, soit par les entreprises, soit par les ménages. Aujourd'hui, c'est plutôt les finances publiques qui prennent une grande partie de ce coût, mais les ménages continuent à perdre du revenu et les entreprises également. Et donc, il y a des craintes de faillite d'entreprises qui sont de plus en plus importantes. Et c'est ça qui peut provoquer une crise un peu plus traditionnel, c'est-à-dire que si les entreprises font un peu plus faillite, ben les banques vont aussi perdre de l'argent, donc il peut y avoir potentiellement une crise financière, mais surtout elles vont détruire de l'emploi, et donc les ménages qui pour l'instant sont relativement épargnés compte tenu de l'ampleur de la crise économique, et ben ça a une deuxième vague, pas sanitaire, mais une vague liée à des licenciements économiques.
Bon, mais je mets de côté pour le moment les entreprises du tourisme ou les entreprises de transport qui, elles, pour des raisons évidentes, sont touchées par la crise de manière frontale. Les autres entreprises, elles ont bénéficié pour un certain nombre d'entre elles du prêt garanti par l'État. Or, les défaillances d'entreprises auxquelles on assiste aujourd'hui, de Renault à Célio dans le domaine vestimentaire, ce sont, semble-t-il, des entreprises qui avaient déjà des problèmes avant.
Alors, vous avez raison, tout le monde n'est pas rentré en même santé dans cette crise économique. Il y avait des difficultés déjà pour un grand nombre d'entreprises. Donc là, il est évident que on peut les maintenir en vie avec des prêts garantis, mais peut-être que c'est pas une très bonne idée. Je parle pas pour Renault, mais en tout cas pour des entreprises qui étaient déjà en difficulté, il faut, voilà, c'est le monde capitaliste qui est fait comme cela. Il y a des entreprises qui meurent, d'autres qui prennent le relais et ça doit être comme cela. Mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui étaient en bonne santé au moment de la crise de la Covid, et parce que elles ont dû fermer pendant un certain nombre de semaines, ou parce que finalement la consommation n'a pas été présente, elles ont été mises en difficulté pendant cette période-là, et donc c'est ces entreprises-là qu'il faut maintenir, en tout cas le plus longtemps, pour que justement on ne les mette pas en difficulté de façon voulue quelque part, parce que rappelons-le, ça a été une décision administrative et donc il va falloir que l'État les aide sans doute un peu plus. Et donc il va falloir trier entre les entreprises qui étaient en difficulté et là c'est à elles à trouver des solutions et des entreprises qui se portaient bien et qui ont été mises à difficulté par ces périodes de confinement. Ça va être ça le rôle du gouvernement. Qu'est-ce qu'on transforme finalement en quasi fonds propres dans ces prêts garantis?
Et oui, alors c'est très important comme problématique. Il faut l'expliquer aux auditeurs, car si ce sont des prêts, il va falloir les rembourser un jour. Si ce sont des fonds propres, ils ne seront pas à rembourser.
Alors oui, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui les aides sont essentiellement, alors du côté du coût salarial, ça a été pris en charge, ça c'est le chômage partiel. En revanche, une entreprise a d'autres coûts que son coût salarial, il y a tout ce qui est lié à son capital, quand vous avez des locaux, vous avez des loyers, etc. Donc il y a un certain nombre de cotisations. Donc il y a eu des reports d'un certain nombre de créances, mais un report ça veut dire qu'il va falloir quand même le payer un jour, et on a accordé aussi des prêts pour justement avoir suffisamment de liquidités pour continuer à pouvoir payer un certain nombre de charges. Là-dessus, c'est toujours dans les bilans des entreprises, parce que ces prix, il va falloir. Et donc, est-ce que au moment de la reprise économique, là qu'on est en train de vivre, c'est peut-être un peu fort comme terme de reprise économique, puisqu'on est encore en dessous de la normale, mais ça va mieux tout de même. Vous voyez, au moment où ça repart, si on leur dit maintenant que ça repart, il va falloir eh ben, payer l'intégralité de ses reports et de ses prêts, il est possible que les entreprises ne puissent pas le faire. Et donc, il va falloir réfléchir à est-ce qu'on abandonne une partie de ses créances, pour qui, pour quel secteur, est-ce qu'on transforme un certain nombre de prêts en quasi-fonds propres, c'est-à-dire que ben, globalement, vous ne le remboursez pas, mais si vous allez mieux, ben, vous versez à l'État actionnaire, quelque part, des parties de dividendes. Et est-ce que c'est une participation de l'État? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est temporaire? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, sur les 16 semaines, entre les 8 semaines de confinement et les 8 premières semaines de déconfinement, notre évaluation, c'est que les entreprises vont subir un choc de 50 milliards. Vous voyez, 50 milliards, c'est tout de même un choc très violent. Et donc, il va falloir des réponses de la part du gouvernement. S'il n'y a pas de réponse, globalement, il faut s'attendre à, en septembre, une vague de licenciements assez importante.
Bon, parlons des réponses maintenant du côté des ménages. On voit que la consommation se porte plutôt bien. Je ne sais pas s'il y a un phénomène de revenge buying, comme on dit en anglais, donc si les individus compensent les achats qu'ils n'ont pas pu faire pendant la période de confinement. Mais en tout cas, Eric Heyer, les différentes indications que l'on a montrent que finalement, les ménages vont dans les magasins et ils consomment.
Alors oui, c'est vrai, mais attention, il faut le relativiser. C'est-à-dire que globalement, pendant la période de confinement, on était à moins 32% de la consommation au sens large. Vous voyez, là, aujourd'hui, on n'est plus qu'à moins 6, moins 7, mais on est encore en négatif. Hein. C'est-à-dire que oui, on est reparti. Et donc, ça veut dire que globalement, les ménages n'ont pas repris leur consommation normale. Alors ça, je parle macroéconomiquement. Il y a des secteurs qui ont pu voir une consommation même supérieure. Mais en moyenne, un ménage consomme moins aujourd'hui qu'il consommait avant la crise de la Covid. Et avec un phénomène très particulier, c'est que globalement, ils consomment moins et ils ont perdu du revenu, mais moins que cette chute de consommation. C'est-à-dire qu'il y a une épargne qui s'est constituée en plus de l'épargne traditionnelle. C'est une sorte d'épargne forcée. Et là, nous, notre évaluation, c'est que pendant elle s'élève aux alentours de 70 milliards, 75 milliards. Le gouvernement est plutôt sur 100 milliards. Vous voyez, donc, d'épargne forcée, c'est-à-dire que les ménages, enfin, sur les comptes en banque, il y a beaucoup plus d'argent maintenant avant la crise. Alors, c'est pas réparti de façon homogène dans la population, bien entendu.
Bien sûr.
Les ménages les plus aisés ont un peu plus ce phénomène que les ménages les plus modestes, mais globalement, il y a ce phénomène-là. Et donc, la grande clé pour, si on veut, une reprise en V, enfin, rapide. Alors après, est-ce qu'elle est souhaitable d'un point de vue environnemental, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais si on veut avoir une reprise de la consommation, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que les ménages vont faire de ces 70 à 100 milliards d'euros en plus? Ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils vont pas les consommer comme ils l'auraient consommé, c'est-à-dire que vous voyez, quand c'était dans les services, ils vont pas aller beaucoup plus se faire couper les cheveux ou beaucoup plus dans les restaurants. Donc ça veut dire que peut-être le grand gagnant dans cette histoire, ça va être l'industrie, c'est-à-dire que peut-être qu'une consommation qui a été empêchée dans l'industrie va être reportée, et peut-être que vous allez même acheter quelque part un téléviseur un peu plus cher parce que vous avez un peu plus d'argent sur votre compte en banque. Ça, s'il est possible. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y aurait une transformation dans la structure de consommation, alors qui serait peut-être pas profitable à l'économie française, puisque vous voyez, les services, c'est en France. L'industrie, il est possible qu'un certain nombre de biens soient des biens qui soient importés. Et donc, attention à ces phénomènes-là. Pour l'instant, le gouvernement est extrêmement prudent dans sa prévision. C'est qu'ils considèrent que à la fin de l'année, ces 100 milliards ne seront pas reconsommés et donc ils resteront comme cela sur les comptes en banque, puisque globalement le ménage n'aurait pas extrêmement confiance dans l'avenir et donc ne reprendrait pas une consommation comme celle qui prévalait avant la crise de la Covid.
Mais alors ce qui serait véritablement inquiétant du point de vue des chiffres, de la consommation, je mets de côté les autres aspects comme les aspects environnementaux, Eric Heyer, ce serait que ces 6 6 ou 7% de consommation en moins, il soit dans un contexte normal. Or, le contexte n'est pas normal. Il y a toute une série de biens et de services que vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui. Je pense par exemple au tourisme, au spectacle. Et donc, il est normal que la consommation des ménages, elle diminue. Ça ne signifie pas pour autant que l'incitation à consommer soit aujourd'hui dissipée par les craintes, par exemple, d'une seconde vague.
Non, oui, vous avez raison. Hein. C'est que globalement, il est normal que la consommation soit pas revenue à celle qu'elle était avant, puisqu'il y a encore la consommation empêchée. Et donc, c'est bien naturel. Mais globalement, on peut se dire que ce qui est pas complètement naturel, c'est on avait déjà avant la crise de la Covid un taux d'épargne l'un des plus élevés des pays développés. Et là, on rajoute à peu près 4 à 5 points de PIB, 4 à 5 points de taux d'épargne en plus. Mmh. Donc, on est à des niveaux extrêmement élevés, jamais observés dans l'histoire de l'économie française, même dans d'autres pays. Donc, la question, c'est pourquoi on reste avec cette épargne extrêmement élevée? Là, il est possible que tout de même il y ait un sentiment il est possible que une vague de licenciements économiques arrive et donc du coup je fais un peu d'épargne de précaution. Bon, il est possible aussi que cette épargne supplémentaire soit consommée un peu plus tard.
Bien sûr, mais alors cette épargne, elle participe d'un effet, je mets ça entre guillemets, d'un effet richesse, qui est grave dans une crise, c'est quand les ménages se sentent de plus en plus pauvres et alors là interviennent des ventes de détresse. Aujourd'hui, on voit par exemple que les transactions immobilières ne chutent pas, les prix ne chutent pas, il n'y a pas a priori de baisse drastique de la bourse, elles ont repris. Bref, il y a un certain nombre de choses qui montrent qu'il n'y a pas de phénomène de panique lié traditionnellement aux crises économiques graves, Éric Heyer.
Oui, non, mais vous avez raison. Là, pour l'instant, on est dans une crise très particulière. On n'a pas finalement les canaux de transmission standards d'une crise. Donc, mais attention, il est possible que ça arrive un peu plus tard. C'est ça que le gouvernement tente d'éviter. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est imaginons maintenant que puisque les entreprises perdent à peu près 50 milliards et que suite à cela, ben, globalement, elles font faillite. Et que du coup il y a des licenciements économiques, là on va tomber dans une crise un peu plus standard, c'est-à-dire que vous allez perdre votre emploi. Aujourd'hui, globalement, il y a eu des destructions d'emplois, il ne faut pas le minimiser, mais c'est aux alentours de 700 000 destructions d'emplois. On aurait dû en perdre, compte tenu de l'importance de la crise, à peu près 9 millions. Donc vous voyez, on a tout de même évité le pire grâce au dispositif d'activité partielle qui a à la fois maintenu l'emploi et quasiment le revenu.
Et oui.
Et donc ça, on peut considérer que c'est ça qui fait que la consommation se maintient et qu'on n'a pas ce sentiment d'appauvrissement. Mais attention, dans les prévisions que l'on voit, même celles du gouvernement, on va détruire jusqu'à 1,2 million d'ici la fin de l'année. Le taux de chômage pourrait monter à 12% d'après certaines évaluations. Donc imaginons qu'elle soit juste. Alors il faut être très modeste. Aujourd'hui, on est un peu dans une obscurité là-dessus. Mais imaginons que ça soit le cas. Alors 12% de chômage, on n'a jamais connu ça en France au cours des 25 dernières années. Donc ça veut dire que on peut arriver dans un comportement. Alors d'abord, il y aura un vrai appauvrissement. Du coup, là, vous perdez votre emploi, vous tombez dans l'assurance chômage ou dans les minima sociaux. Et ensuite, il y a une épargne de précaution qui se matérialise parce que vous dites, tiens, la probabilité de tomber au chômage est plus forte. Donc attention, il faut justement tenter d'éviter cela. Comment on évite cela? C'est à la fois en continuant, et donc là c'est ce que fait le gouvernement, les mesures d'activité partielle, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix éviter les licenciements, quitte à baisser le temps de travail. Et donc là, c'est exactement les mesures qui ont été proposées hier. Mais attention, il y a l'autre côté. Il faut aussi que les entreprises soient aidées du côté des autres coûts, parce qu'aujourd'hui,
on comprend effectivement.
Encore une fois.
Merci beaucoup, Éric Heyer. Vous êtes économiste et directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Dans quelques instants, aux environs de 8h20, une interview exceptionnelle avec le cinéaste Woody Allen qui publie ses mémoires, soit dit en passant, aux éditions Stock. 8h sur France Culture.